plus rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, ils viennent d'avoir un grain. C'est les rinettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais saint, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, on m'a cassé les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix fout de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi je joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'y aurais cyanure. Ici ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, Calice, ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rachat de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, j'entends Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans une nuit de son fils numéro 1, mais j'excuse les lésés si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix à tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blousé, c'est mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça c'est des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan avec ses talons j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance. Il vous a jamais quitté. Malheureusement on profite de sa confiance mal placée. Parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience. Aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix fout de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je ne vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, la voix fout de la preuve. La rage.
Bonjour, bonsoir. Nous sommes sur Pas de quartier, l'émission du groupe Louise Michel, 89.4, Radio Libertaire, sans Dieu ni maître, ni publicité. Et c'est Elisabeth. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet en apparence futile, mais qui en fait est extrêmement riche. Il s'agit des poils. De la pilosité humaine, féminine en particulier, et de tout ce qu'elle symbolise en termes de classification sociale, sexuelle, de marqueurs esthétiques, de rébellion, etc., etc. Vous allez voir qu'en fait, c'est un sujet qui est super intéressant. Voilà. Alors, on a des invités pour parler des poils. On a autour de la table Zoé et Jocelyn qui font partie d'un groupe qui s'appelle Miel.
Donc voilà. Voilà, juste le précise, Miel c'est Mouvement International pour une écologie libidinale.
Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire écologie libidinale? Ah pardon, je vais d'abord présenter aussi tout, nous sommes avec notre ami Nestor Poelkin.
Pas Poelkin, c'est ah Potkin.
Oui, Potkin, donc bien connu, bien connu des lecteurs du Monde Libertaire. Et nous attendons un garçon qui est un peu en retard. Vous entendrez peut-être une sonnerie de téléphone qui s'appelle Vincent et qui est poilophile. Voilà. Et nous sommes avec François qui est venu un peu me tenir la main.
Et François, il est barbu.
Voilà.
Comme les
voilà. Donc on en était
comme
au
les
groupe.
Auditeurs le voient bien.
Voilà. Et moi-même, ce qui...
tu n'es pas barbu.
Je ne suis pas barbu, mais voilà.
Et elle en est fière.
Voilà. Et alors donc, voilà. Peux-tu nous expliquer, Jocelyn, ce que signifie écologie libidinale et ce qu'est ce groupe ?
Alors, il faut voir qu'au départ, l'association a été créée suite à la lecture de la psychanalyse politique telle que développée par Wilhelm Reich. Donc dans écologie libidinale, il y a libido, donc énergie sexuelle. Et puis écologie parce que c'est que tout se tient, l'idée que tout se tient, que nous les humains nous sommes en relation avec tout notre entourage et que l'énergie donc sexuelle, mais que Reich en fait définit après de façon plus large comme l'énergie du vivant, cette énergie nous baignons tous dedans et nous l'échangeons et voilà. Et cette énergie elle est réprimée par les sociétés oppressives.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, car enfin, ce mouvement Miel milite contre le diktat de l'épilation, et en particulier de l'épilation féminine, et on le verra peut-être après, mais de l'épilation masculine qui commence à se développer d'une manière très très importante chez les jeunes hommes aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le sens de ce combat contre l'épilation?
Voilà, alors, c'est un des combats du Miel, hein, c'est,
oui.
Ce n'est pas le seul. C'est celui sur lequel on a eu le plus d'écho, je dirais, auprès du grand public. Hein, donc, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui faisait beaucoup réagir. Et donc, on a choisi de le développer et de pas mal communiquer autour de ça. Et d'ailleurs, enfin, j'en profite pour dire que je suis très content qu'on soit invité sur Radio Libertaire parce que, en général, on a affaire aux médias, donc la presse grand public, qui le plus souvent édulcore le contenu politique de ce qu'on a à dire sur la question.
D'accord. Alors, je m'adresse à Zoé. Zoé, tu es une jeune femme, hein, et tu fais partie de Miel. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as rejoint ce mouvement? Quelle est ta démarche?
Alors, comme Jocelyn vient de l'expliquer, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir les gens, le côté oppressant de la société actuelle qui nous oblige en gros à nous épiler d'abord les femmes, mais de plus en plus les hommes. Et donc moi, il se trouve que depuis 2 ans, je me caractérise volontairement comme féministe et que depuis deux ans, j'ai cessé de m'épiler et... Je dirais que j'ai d'abord entamé cette démarche par curiosité, en me disant, bon, pourquoi pas, pourquoi est-ce que je serais obligée de le faire? Et puis c'est après, quand j'ai vu les réactions que ça a engendré, que je me suis dit, en fait, j'ai pas vraiment le choix. Même si on pourrait me faire penser que c'est un choix esthétique, le simple fait de se balader dans la rue comme ça, non épilé, suscite de vives réactions, des regards, et donc quelque chose de très négatif en général, ce qui nous fait, enfin, je pense, nous, femmes, avoir honte de nos poils en regard des réactions des autres, en fait. Donc, pendant 2 ans, voilà, j'ai milité un peu toute seule. Et puis après, j'ai eu l'idée d'aller sur Internet pour voir s'il y avait d'autres femmes qui faisaient comme moi, parce que je me sentais un peu solitaire voilà, dans mon militantisme. Et je suis tombée sur la page du Miel, sur l'épilation et sur la critique de ce diktat de l'épilation. J'ai trouvé des arguments très pertinents, très bien organisés, scientifiques, sociaux, avec le poids de... du capitalisme, des médias, de la pensée unique, voilà l'idée qu'il faut tous se conformer, qu'on est un peu voilà contrôlé et dans notre physique et dans notre manière de penser et d'agir. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai vu que sur ce site de Miel, il y avait pas mal Il y avait un forum avec plein de témoignages de femmes qui ne s'épilaient pas et ce que ça leur causait comme problème. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, ça va vraiment donner un sens à ma lutte. Si j'adhère à ce mouvement, je pourrais rencontrer des gens qui font comme moi. Et surtout, voilà, c'est très agréable de sentir qu'on n'est pas seul dans son combat.
Mais Zoé, je vais poser une question. Au-delà du plaisir que tu as à garder tes poils, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs l'intérêt capitaliste à ce que les femmes et les hommes s'épilent?
Oui, tout à fait. Alors d'abord, je voudrais juste préciser que moi, je ne sais pas par goût au départ que je l'ai fait. C'est vraiment comme je l'ai expliqué, par curiosité. Et je ne me posais même pas la question du beau ou du laid dans cet acte-là. Après, c'est devenu un combat, mais par la force des choses. Parce que en fait, j'étais tellement brimée, mais même indirectement, que le fait de ne pas s'épiler, donc ça relève absolument pas du choix chez la femme, ça devient un combat. Parce que, en gros, où on le fait, et donc c'est un acte déviant, où on le fait pas, on se range et tout va bien, on est une femme normale.
Oui, mais qu'est-ce que ça rapporte au lobby?
Donc, si je peux répondre à la question. En fait, pour moi, le fait de faire croire aux femmes, et de plus en plus aux hommes, que les poils naturels c'est laid ou c'est sale ou c'est pas hygiénique ou n'importe quel argument assez absurde, ça pousse à la consommation. Donc ce qui fait que voilà, on a honte de notre corps tel qu'il est, donc on va se le changer. Donc ça c'est le succès donc des industries cosmétiques. Donc on fait croire aux gens que naturellement ils ne sont pas beaux, ou que naturellement il leur manque ça aussi ou ça, donc par le biais de la publicité, bon, c'est comme ce que Marx appelait les nouveaux besoins. On crée des nouveaux besoins en diffusant des images d'idéal féminin et masculin, et en gros on dit, si vous voulez être normal, ayez les jambes lisses, ayez la peau comme ça, et allez vite acheter donc des bandes de cire, des rasoirs, des ci et des ça. Et ça, c'est une superbe industrie qui est...
Ouais, plein de pognon.
Ah oui, qui rapporte beaucoup d'argent.
Côté plein de pognon, il y a un truc très simple, c'est que le grand avantage de l'épilation, c'est que le poil repousse. Donc, c'était l'idée de Monsieur Gillette, qui vendait des rasoirs, et il les vendait pas cher. Et on lui disait, mais pourquoi vous vendez vos rasoirs pas cher? C'est pas le rasoir sur lequel je vais faire de l'argent, c'est sur les lames qui vont être régulièrement revendues. Et l'épilation, donc, c'est exactement la même chose. Et là-dessus, ça, les lobbies, évidemment, adorent un système où les gens sont obligés de racheter constamment.
Oui, c'est l'obsolescence calculée.
Exactement. Là, c'est plus l'obsolescence programmée, c'est carrément l'obsolescence génétique dans le corps. C'est merveilleux comme source de revenus pour les grands groupes. Alors, côté combien ça rapporte, je crois qu'il suffit d'aller dans un supermarché. Il y a 30 ou 40 ans, dans un supermarché, les rayons de rasoirs jetables, c'était principalement des rasoirs pour mecs, et maintenant, en gros, il y a le même espace pour les rasoirs dits féminins et les rasoirs dits masculins, dont on remarquera que les rasoirs féminins sont bien entendu roses avec des courbes, alors que les rasoirs masculins vantent la performance et le Mac 4. Ça c'est viril et rigide.
Mais il n'y a pas que ça, il y a tous les gels,
tout le reste,
épilatoires, les cires, enfin toutes les formes de torture qu'on peut...
Je présume très violemment que l'épilation féminine commence à rapporter nettement plus que le rasage masculin.
Elle rapporte environ 2 milliards de dollars par an, je crois, quelque chose comme ça, et en plus on crée constamment de nouveaux produits. Le nouveau produit a été lancé par la marque américaine Dove. Il est pour les femmes. Il s'agit d'une crème de beauté pour les aisselles. C'est quand même phénoménal.
Ouais,
c'est une crème de beauté pour les dessous de bras. Quoi.
Enfin,
c'est,
vous savez, il y a même des crèmes cosmétiques pour l'anus, alors. Hein.
Alors c'est là, pas merveilleux.
Bon, oui, c'est vrai.
C'est dans Cosette que j'ai
voilà.
vu ça.
Voilà, voilà.
Non, mais c'est tout vrai, ça est issu du lobby... du cinéma porno. Parce que cette mode-là, elle est presque directement issue du porno. Enfin, peut-être que je mange sur le plan.
Oui, t'as raison, mais c'est un peu plus compliqué que ça.
Moi, je voulais juste ajouter un petit truc à ce que disait Zoé.
Jocelyn, voilà, de Miel.
Donc, en fait, si on y réfléchit deux minutes, dans toute cette histoire de poils qu'il faut enlever, il y a un implicite qui est absolument terrifiant, qui dit à la femme, et qu'elle intègre, que son corps est sale et laid. naturellement. La femme est sale et laide naturellement. Il faut qu'elle arrange ça, quoi, absolument. Et ça, c'est implicite, bien sûr, mais ça, c'est les gens l'intériorisent complètement, quoi.
Alors, justement, tu m'offres une transition rêvée pour parler de l'histoire du tabou du poil et en particulier du tabou féminin. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Là, tu disais effectivement que tout cela suppose une représentation de la femme comme essentiellement impure. Hein ? Est-ce que tu peux nous brosser à grands traits ?
C'est le mot.
Est-ce que tu peux nous brosser à grands traits donc l'histoire de ce tabou féminin sur la pilosité féminine, parce que c'est un tabou qui est extrêmement ancien.
Alors, c'est assez délicat quand on remonte dans le temps de comparer, hein, ce qui se passe à une certaine époque et ce qui se passe aujourd'hui, parce que la vision du monde qu'ont les gens dans la société à une époque donnée n'est plus la même que la nôtre. Et donc, il faut se garder de faire des interprétations et des rapprochements un peu trop rapides. Donc, le fait de s'épiler, d'enlever le poil, donc c'est effectivement attesté dans l'histoire de façon ancienne et, on va dire, récurrente. Mais c'est en fait ce qu'on a pu trouver, c'est que ça se passe soit dans une certaine classe sociale, où là, on est dans un phénomène de distinction. On se distingue des autres, par exemple, si on est une classe dominante, on se distingue des autres. Donc on va adopter un marquage corporel pour cette distinction. C'est pas attesté de façon continue, c'est à certaines époques, c'est dans certaines sociétés, dans certaines classes, avec donc des symboliques qui peuvent être différentes. Alors qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est totalement original. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est toutes les femmes qui doivent s'épiler sur toute la planète. Et ça n'est plus... Donc, il n'y a plus de distinction, puisque hein, c'est tout le monde. Il n'y a plus d'idées de symbolique ou de rituel ou de choses comme ça. On est vraiment dans l'éradication d'un truc qui est sale. Et évidemment... C'est dans le contexte capitaliste, comme on vient juste de le dire. Donc, il y a des intérêts économiques qui poussent à ça, évidemment. Et j'ajouterais qui poussent à ça non seulement par intérêt bassement matériel, mais aussi, et ça, on en reviendra peut-être plus tard, parce que derrière cette norme d'épilation, il y a un effet de soumission qui est recherché et effet de soumission qui est très important pour les classes dominantes.
Nestor.
Sur l'aspect historique, il y a un moyen assez bon d'essayer de savoir quand est-ce qu'on s'épile, quand est-ce qu'on s'épile pas, même s'il est limité, c'est l'iconographie. Donc on peut regarder comment est-ce que les corps humains nus sont représentés dans les cultures, et évidemment plus particulièrement les corps féminins. Alors là-dessus, il y a quelque chose d'absolument sidérant, qui est que le poil féminin est extrêmement rarement représenté. Alors là, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, c'est rarissime. Le poil masculin, alors la barbe est évidemment le marqueur de virilité classique dès les Assyriens, etc. À ce point que les pharaons se mettent carrément des barbes postiches. On ne sait pas très bien pourquoi, mais enfin en tout cas ils les avaient. Et pour revenir aux Égyptiens, en revanche... on voit évidemment extrêmement peu de poils sur les corps nus des danseuses représentés dans les tombes. Alors de là à décider qu'elles s'épilaient systématiquement ou est-ce que c'était un idéal, un pur idéal esthétique, évidemment là on n'en sait trop rien. On peut constater que dans la société égyptienne il y a beaucoup d'épilation et que dans la société méditerranéenne en général... le cheveu et le poil ont une puissance symbolique terrible à deux niveaux. Premièrement, les esclaves, on leur rase la tête. Alors évidemment, l'avantage de leur raser la tête, c'est que d'abord, ça diminue des problèmes d'entretien du matériel. Hein, on évite les poux. Mais deuxièmement, ça permet d'identifier tout de suite un esclave en fuite. S'il a quelqu'un qui a les cheveux complètement ras, c'est un esclave. Et ensuite, il y a le vieux symbolisme méditerranéen qui n'est pas, alors uniquement, qui n'est pas tellement sur le poil, mais qui est sur le cheveu. La femme aux cheveux libres, c'est aux cheveux dénoués, c'est la prostituée. C'est la femme sexuellement disponible. Et la femme sexuellement indisponible, la femme mariée, a les cheveux soit tressés, soit voilés. Et ça, ça va porter sur toute l'iconographie du poil. Et après, après les Égyptiens, alors si on reste en Occident, on a les Grecs. Et alors là, les Grecs, le problème se pose. Les statues grecques, les mâles, ont des poils pubiens assez souvent. Alors en général, stylisés, c'est rigolo comme tout. Les statues féminines, que dalle. Seulement, voilà, les statues grecques, la quasi-totalité, elles étaient peintes. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est si nos Aphrodites pudiques, etc., est-ce qu'elles avaient une toison peinte ou pas. Quant aux aisselles, on en sait évidemment encore moins. Donc là-dessus, c'est pas très clair, mais il est pas sûr qu'il n'y ait pas eu des phénomènes d'épilation. Et puis, toujours pour rester ensuite sur la représentation, dans la représentation, en Occident, très très vite, le poil féminin incontestablement va être condamné et le poil pubien masculin va être extrêmement rare. Et le tabou du poil féminin dans la représentation artistique occidentale, alors là, il se verrouille à peu près complètement à la Renaissance. Là, il n'y a quasiment plus personne. Il y a un peu Cranach qui fait des espèces de petites ombres dans un coin. Et puis, plus personne n'ose représenter de poil féminin. Et c'était devenu explicite au XIXe siècle. Au XIXe siècle, l'art officiel, c'est un art qui sert à titiller les hommes qui ont du mal à avoir des représentations pornographiques. Alors, tant qu'à faire, on change l'art officiel en représentation pornographique hypocrite. Et hypocrite comment ? C'est très simple. On décide qu'une femme nue dans une pose particulièrement aguichante, si elle n'a pas de poil sur le corps, c'est de l'art, avec un grand art. Et si elle a du poil, c'est de la pornographie. Alors on voit ça avec le cas Manet, quand Manet peint Olympia et qu'il fait une espèce d'à peine petite ombre, juste un tout petit peu beige, on voit même pas un poil individuel, c'est une espèce d'ombre sur l'aisselle, Olympia est vue comme la Vierge de l'égout. La Vierge du caniveau, voilà. La Vierge du caniveau, elle est immédiatement infâme, immonde, bourrée de vices et de sanies et de pus et de. Enfin, elle est un sac de saleté, exactement comme certains pères de l'Église décrivaient le corps féminin au Moyen Âge. Et il va falloir attendre très longtemps avant que ce tabou de la représentation du poil féminin soit brisé. Il ne faut pas nous rappeler Courbet, l'origine du monde. Courbet, l'origine du monde, c'est un tableau privé. Absolument pas destiné au public, il va falloir attendre en gros les Gauguin, Gauguin, puis les années 20 pour commencer à voir arriver des poils dans des représentations. Et c'est à peu près toujours des artistes en marge.
Modigliani, il y a les grands nus de Modigliani.
Attention, Modigliani, quand il peint ses femmes avec du poil, il est un artiste en marge qui n'expose pas dans les grandes galeries. Après, ça commence à arriver, ça reste encore très gênant. Pour les Américains, par exemple, dans les musées américains, c'est pas tous les Modigliani qu'on montre, parce que si on a un joli petit triangle brun, oh, y a des enfants qui viennent dans les musées, donc.
Oui. Et on va arriver au XXe siècle, hein, on va aller un petit peu rapidement. Je crois qu'au XXe siècle, on peut dire que le tabou du poil féminin s'est affirmé à travers le cinéma hollywoodien et les codes de censure. Jocelyn, Nestor peuvent nous dire quelque chose.
Moi, ce que je voudrais ajouter donc à ce que Nestor a dit, finalement, c'est ce qui ressort de tout ce qu'il a dit, c'est que le poil, c'est un marqueur sexuel. Et s'il est banni de l'iconographie, c'est pas en tant que poil, c'est en tant que représentation du sexe. Et parce que on nous dit parfois que nos correspondants, mais non, le poil, ça n'a rien à voir avec le sexe. Je veux dire, symboliquement, ça a toujours été le cas.
Et entre autres pour le poil féminin.
Entre autres, il y a en plus.
Parce que le sexe féminin est beaucoup plus tabou que le sexe masculin.
Et là-dessus, il faut se souvenir aussi que ce démarrage avec les Grecs, dont on ne sait pas très bien s'ils représentaient les poils, il y a aussi une idée grecque assez bizarre. Leur connaissance en anatomie était discutable. Et pour les Grecs, seuls les hommes étaient fertiles. Et les femmes n'étaient que le vase de la fertilité masculine. Et par conséquent, le poil masculin pouvait être vu comme un symbole, alors non seulement un marqueur sexuel de la virilité, mais également une preuve de fertilité. Alors qu'à l'inverse, le poil féminin était là. Je ne pense pas que s'il y a eu une épilation éventuelle chez les Grecs, c'était un marqueur sexuel pour eux, ou un marqueur précisément de la sexualité, que c'était plutôt là, en revanche, un marqueur d'animalité. C'est-à-dire que, là, à nouveau, il y a un double standard. Le poil est quelque chose qui semble nous rapprocher de l'animalité. S'il est masculin, c'est pas grave, parce que nous, les hommes, nous dépassons l'animalité. Mais s'il est sur un corps féminin, là, c'est en revanche un symbole de régression, de chute vers l'animalité. Et il y a toujours eu, je crois, dans les tabous contre le poil, ces deux dimensions. C'est le marqueur sexuel qui dit, attention, nous sommes aussi des êtres sexuels. Et le deuxième marqueur, c'est, nous sommes des êtres dont la frontière avec les animaux n'est pas si claire. C'est pas bien pour les femmes, et c'est bien pour les hommes, qui en revanche disent, mais notre lien avec les animaux, c'est que nous sommes des taureaux.
Ou des lions, voilà, la crinière.
Nous sommes des lions,
voilà.
Nous avons la crinière du lion, etc. Et on s'en aperçoit, par exemple, dans le drame vécu par tant d'hommes à propos de la calvitie, où pour eux, c'est une claire perte de virilité.
Oui.
Et oui, c'est-à-dire, il y a effectivement, dans ce que tu disais, Nestor, je suis en train de perdre le fil.
le double standard sur la représentation.
Oui, c'est pas par rapport à la question de l'animalité. C'est-à-dire, on retrouve tout au long de la culture occidentale cette idée que la femme est beaucoup plus proche de l'animal.
Exactement.
Et qu'on doit la domestiquer.
Voilà, oui, tout à fait. Voilà.
Donc, oui. Et donc l'épilation, c'est la domestication de l'animalité chez la femme.
J'aurais aussi quelque chose à ajouter par rapport à ça.
Zoé.
Non seulement, oui, on veut absolument distinguer la femme de l'animal, mais je pense qu'il y a aussi dans l'épilation une manière de maintenir la femme à l'âge enfant. Et on sait que depuis longtemps, la femme a été maintenue dans un statut de mineur, mais vraiment une minorité juridique, voilà, exactement, dans le droit romain notamment. Et qu'elle était toujours au stade de mineur, donc comme une enfant, sous la tutelle d'abord du père et puis du mari, donc jamais autonome.
Et des frères aussi.
Des frères aussi, oui, donc totalement sous la domination masculine. Et donc voilà, cette pratique d'épilation féminine veut conserver à la femme ce caractère d'enfant mineur, incapable de ses mouvements et de ses actes. Et ce que j'ai lu aussi dans le site du Miel et qui m'a beaucoup frappée, mais qui me paraissait très pertinent, ça se fait toujours actuellement, notamment depuis la banalisation de l'épilation du pubis chez la femme, c'est qu'il y a une sorte de banalisation de la pédophilie, en fait, puisque on épile la partie qui représente le passage de la femme à la puberté, donc
la maturité sexuelle
oui. Et la maturité, donc l'âge adulte, et ça on l'efface, on le raye de la carte, voilà, avec des méthodes de plus en plus radicales, donc puisque maintenant on n'a pas seulement le simple rasoir avec l'épaule qui repousse, on a des techniques d'épilation définitive, voilà.
Au laser.
Et aussi, si je peux permettre juste une seconde, ça va encore plus loin, parce que maintenant que le sexe de la femme est nu, il faut quasiment le faire disparaître. C'est-à-dire, il y a cette technique de labiaplastie qui consiste à réduire tout ce qui dépasse. Donc là, on arrive vraiment à le sexe normé de la femme.
Ticket de métro.
On opère, il y a de plus en plus de femmes qui se font couper les lèvres du sexe, quoi. C'est...
Voilà. Donc
je voulais juste rebondir aussi sur
toute maturité sexuelle est supprimée.
Parce que là, il y a un lien évident avec la religion. Tant dans l'islam que dans le judaïsme, et à la limite dans la chrétienté en particulier chez les orthodoxes, les hommes doivent porter la barbe. C'est-à-dire que là, le raisonnement est évident, les hommes, eux, ont droit à la maturité, et alors que, à nouveau, la nécessité de cacher le cheveu dérive ensuite sur la nécessité de l'épilation, et donc tout à fait le fait de maintenir la femme en état de mineur permanent.
On va faire une petite pause musicale et passer notre première chanson. Anne.
Tu m'as dit d'un petit air battu en revenant hier soir du bahut. Tout le monde y se fout de ma gueule, vu que je suis à peu près la seule à ne pas étudier mon look. De nos jours, si tu n'as pas de look, tu passes pour la dernière des ploucs. Bah désolé, moi je l'ai pas, le look. Mais ma cocotte, si tu savais comme tu t'es belle, telle que tu es. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que t'es. T'as le look des gens de nulle part, qui se sentent partout peinards. Tes vêtements, on croirait que c'est ta maman qui te les a fait. Ils te collent si bien au cul, que t'as pas besoin de superflu. Et si ça ne plaît pas aux cons, bah c'est la preuve qu'ils sont vraiment cons. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que tu es. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que t'es. Tes cheveux, ah tes longs cheveux, sont faits pour les caresses des dieux. Tes cheveux, tu les fais pas chier sous les doigts des coiffeurs branchés. Un coup de brosse et les voilà fin prêts à caresser le vent de juillet. J'aimerais bien distribuer des claques aux grognasses vitrifiées de lac. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que tu es. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que t'es. Et tes yeux, ah oh putain tes yeux, ils se suffisent bien à eux deux. Ton miroir ne l'a-t-il pas dit non? Eh ben c'est moi qui te le dis. Tes beaux yeux, ce sont des étangs où vont boire au soleil le vent les chevaux amoureux des sources qu'on n'a pas dressées pour les courses. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que tu es. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que t'es. Je t'en prie, à ta silhouette, n'ajoute pas le moindre gadget. N'abîme pas ce que tes parents ont fait de plus intelligent. Sache que quand on est bien dans sa peau, on n'a pas besoin d'une deuxième peau. Et toi qui marches loin des rues, ben n'aie pas honte de tes pieds nus. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que tu es. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que t'es. Allez, va, ma petite, allez, les rumeurs ne font que passer. Va-t'en seule sur ton chemin, tu verras qu'un beau matin, un gentil garçon dont la classe ne se mesure pas aux godasses te dira d'un air extasié après votre premier baiser. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que tu l'es. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que t'es. Oh ma cocotte, si tu savais comme t'es belle, telle que t'es.
Bouche fermée.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes toujours bien dans l'émission Pas de quartier. Nos invités, les invités d'Elisabeth parlent du poil. Et je vous rappelle que si vous voulez joindre l'émission pendant les pauses musicales, vous pouvez composer le 01 43 71 89 40. Et Jocelyn va nous dire quelle était la musique.
Voilà, donc on a écouté Cocotte de Patrick Font, un auteur qui a eu son heure de gloire, qui était particulièrement subversif et qui a été éradiqué du paysage audiovisuel.
Voilà.
Alors, comme je crois ça, pour des, ça pour fait des... une transition oui, pour la pédophilie.
Oui, voilà. Mais bon, alors, bon, là, on va donc On discutait pendant la pause avec Nestor sur la triade infernale.
La triade infernale, l'abominable triade du lys, c'est-à-dire l'obsession moderne du désir du lys et de la lutte contre le poilu, le ridé et le gras. Donc il y a cette espèce de standard qui est imposé d'abord aux femmes et qui commence à s'imposer aussi aux hommes, de ce corps complètement lisse. Alors il y a une ethnologue, je pense, qui a dit que c'était un petit peu lié, du point de vue esthétique à la raison, à cette obsession moderne du lisse dans les objets, dans le design. Mais ça, c'est bien entendu très mineur. Ça ne se serait pas imposé au corps moderne si facilement. À ceci près quand même que, quand on s'aperçoit à quel point l'image est une dictature dans nos vies, entre Facebook, l'Internet, les smartphones, vous avez vu les gens qui maintenant devant les monuments touristiques, ils sautent parce que comme s'ils faisaient de la pub avec un trampoline, et ils sautent, ils ne peuvent plus exister que par l'image. Et dans l'image maintenant, le corps humain, il est fatalement lisse. En particulier le corps féminin, femmes. Mais le corps masculin commence à dire. Et cette obsession du lisse, elle débouche finalement sur la pédophilie. Parce que quel est le corps humain le plus lisse? Fatalement, c'est le corps de l'enfant, c'est le corps du bébé. Et on peut toujours se demander pourquoi, par exemple, l'explosion des images pédophiles sur Internet, d'où ça vient? Est-ce que tout d'un coup, il y a plus de, entre guillemets, pédophiles qu'avant? Ou bien, est-ce que c'est cette manie du lisse qui, finalement, dérive vers ça?
Oui.
Je crois que ce serait quand même un peu abusif de dire que cette manie du lisse pousse à la pédophilie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, donc, comme toujours dans notre société pseudo-libérale, un double discours, c'est-à-dire que tout ça, donc, effectivement, rendre la femme mineure, et même aussi peut-être l'homme, et en même temps, il y a cette hystérie de la chasse aux pédophiles.
D'ailleurs, pédophile représentant le mal absolu.
Voilà, nouveau démon.
Voilà. Et d'ailleurs, sur notre site, on fait une page pour bien expliquer qu'en fait, c'est pas le pédophile le criminel, c'est le sadique. Hein, mais qu'il y a eu une dérive dans le vocabulaire médiatique qui utilise le terme pédophile à tort et à travers.
Ouais.
Voyez, et on est dans l'irrationalité. Et l'irrationalité, elle dénote un gros malaise quelque part qui est caché.
Je dirais que c'est pas de l'irrationalité, c'est une manière justement de se justifier, de penser qu'on est moralement ok d'avoir cette triade du lys, parce qu'il y a des gens qui en portent, eux, la responsabilité criminelle, qui sont les affreux pédophiles. Je crois voir là-dedans le même mécanisme qu'au XIXe siècle, avec d'un côté la femme nue artistique dans le tableau idéal, et puis le statut réel de la femme. Je crois qu'il y a là-dessus, il y a une espèce de double jeu, mais de on se permet quelque chose en posant la faute sur un bouc émissaire quelque part.
Alors on va aborder un secteur qui est très important dans cette histoire de poils, c'est maintenant les représentations de la pornographie. Juste un petit truc, quand les films pornographiques dans les années 70, qu'on appelle l'âge d'or de la pornographie, enfin quand les films n'étaient pas X-és, où les filles étaient joyeusement poilues, et il y a eu au cours de ces dernières années une disparition progressive du poil pubien féminin, et maintenant la norme esthétique des films porno, c'est le rasage intégral, à tel point que j'ai lu, je crois sur le site de Miel ou je ne sais plus où, des témoignages de jeunes gens qui, en découvrant un sexe féminin avec des poils, croyait qu'elle était malade, n'en avait jamais vu. Donc Zoé, oui, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
C'est un peu le paroxysme de l'absurdité. Donc moi, j'ai pas connu cet âge d'or de la pornographie, puisque bon, j'étais pas née dans les années 70. Donc moi, je suis majeure, donc j'ai recours à ce genre d'image, j'en ai l'utilisation ponctuelle, on va dire. Et je n'ai pas connu d'autres pornographie que la pornographie où c'est l'épilation totale. Et ce qui est assez surprenant, enfin ce qui est assez significatif en même temps, c'est de voir que la norme absolue, c'est voilà cette absence totale de poils, et que par ailleurs les corps de femmes qui seraient laissés au naturel font l'objet d'une catégorie toute particulière qu'on peut reléguer au rang de d'étrangeté ou de
perversion.
De perversion. En tout cas, c'est la norme, c'est l'absence de poils. Et ce qui peut être voilà le lot des plus fantaisistes et des plus comment dire
des plus
décalés ou des plus pervers on a voilà une catégorie où c'est spécifié qu'il y a du poil, où il y a body hair, voilà.
Et qui va en général avec la zoophilie, etc.
Voilà,
c'est-à-dire que l'élément naturel est devenu extraordinaire et
ce qui devient, bizarre. Ce qui devient spécifié, c'est d'avoir du poil. Et par contre, c'est devenu totalement has-been de dire vous avez ici de la pornographie avec des femmes totalement épilées. Non, c'est ce qu'on spécifie, c'est vous avez des sexes poilus ici. Alors que bon, c'est juste.
Je pense pouvoir préciser la chose du point de vue historique. Effectivement, dans les années 70, on se pose moins ce problème du poil dans la pornographie. Je dirais même que très probablement, c'était vu comme l'un des signes excitants. Tout simplement parce que le poil était caché et de le montrer, c'était donc excitant. Seulement voilà, les gros fabricants de pornographie, il y avait un peu de pornographie européenne, principalement le Danemark et l'Allemagne, un tout petit peu de français. Et puis, il y avait à côté de ça un géant américain. Alors, le géant américain, ça s'explique pour une raison extrêmement simple, c'est qu'à Los Angeles, c'était là qu'il y avait Hollywood et qu'il y avait les télévisions américaines et qu'il y a donc des milliers de gens qui sont au chômage demi-permanent et qui savent pourtant faire des films et des émissions de télévision et qui se sont précipités avec allégresse dans le créneau de la pornographie. Bon, donc tout d'un coup, l'Amérique a produit une quantité de pornographie extrêmement supérieure à celle de n'importe quel autre pays. Et le problème, c'est que aux États-Unis, il y a une très vieille haine du corps naturel. Alors, bien entendu, un peu chez les hommes, mais comme par hasard, une haine du corps naturel féminin, qui s'était déjà manifestée très très vite, par exemple, avec cette obsession des faux ongles. C'est quelque chose, par exemple, c'est un des marqueurs des films pornographiques américains, produits industriellement, c'est que les actrices ont des ongles absolument immondes,
des
en
griffes,
plastique,
oui.
Des griffes horribles, elles ont des perruques, elles ont des faux seins, elles ont des lèvres injectées au collagène ou je ne sais pas trop quoi, et bien entendu, elles sont rasées. Tout ça participe exactement de la même idée, mais ça c'est une très vieille idée américaine, la nature c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est artificiel, parce que ce qui est artificiel, c'est propre. Et c'est cette obsession américaine,
hygiéniste,
le germe, c'est pas bon, la nature, le microbe, c'est pas bon, la nature, c'est pas bon, donc le poil est fatalement vu comme l'hôte des microbes et le marqueur de la nature. On revient là au marqueur de l'animalité. Puis ensuite, c'est glissé l'avantage d'abord de la triade d'Ulysse, de l'idée de la jeunesse, de la minorité, et de ce mélange bizarre, minorité, pédophilie. Mais historiquement, je crois que c'est comme ça que la glissade s'est faite. C'est passé par le goût américain du corps artificiel, et tout d'un coup, on est tombé sur ce filon. Waouh! Là, l'épilation, tout d'un coup, on avait quelque chose qui devenait puissant symboliquement.
Oui. Alors.
Et
surtout très rentable commercialement.
Du point de vue historique, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que, donc, par rapport à l'iconographie, quand est-ce qu'on voit du poil? Finalement, on l'a déjà dit, au début du siècle, la belle époque, après la Première Guerre mondiale, les années folles, et puis les années 70. Et qu'est-ce que c'est ces périodes-là dans le XXe siècle? Ce sont les périodes de plus grande émancipation populaire.
C'est tout à fait exact.
Il y a correspondance tout à fait entre...
Très clair.
Entre le climat politique et la liberté sexuelle, et donc ce poil qui apparaît.
Et tu me fais penser là à l'iconographie nazie, et où les corps nazis sont des corps glabres.
Hein,
que ce soit le corps masculin ou féminin, l'iconographie du SS, c'est un homme sans... bien entendu, voilà. Et alors il y a Anne qui, de la cabine, nous rappelle un truc fascinant, la moustache de Hitler. La moustache de Hitler, c'est cette moustache d'impuissant, de châtré, de petit minable,
oui,
qui voudrait avoir sa virilité, mais il n'ose pas. C'est tout Hitler, ça. il voudrait avoir sa virilité, il a sa virilité par procuration, par les bêtes blondes SS, mais comme il est quand même profondément inhibé, il s'est fait sa petite moustache de merde. Et Anne, mille merci pour cet aperçu intéressant au possible.
Comme quoi, mais ça va loin le poil, hein, ça va très très loin, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Je veux dire, c'est que le poil a été toléré dans des périodes d'authentique émancipation. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans cette injonction absolue du dépoilage, et on prétend être dans une période d'émancipation. Oui, donc ça. On est véritablement dans quelque chose, dans un mensonge.
Oui, c'est qu'en fait le problème, c'est que ce dictat, cette injonction, elle est très indirecte et elle est très... ce sont des normes qui sont très bien intégrées. Et on a un discours double, comme tu disais, Jocelyn, tout à l'heure, très hypocrite, puisque là, en ce moment, on a une espèce de mode de retour à la nature avec le bio, retour à la terre, le naturel, bon, voilà.
Et mais sans poil.
En même temps, sans poil. Il faut pas avoir de poil. C'est comme cette expansion du libéralisme. Et qui s'étend même à la vie privée des particuliers. Donc, on est de plus en plus libre. On a cette idéologie de chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Mais en même temps, oui, chacun est libre de se raser les jambes, chacun est libre de se maquiller. Bon, ça touche les hommes aussi. On a un discours très hypocrite. Et dans les faits, c'est une oppression qui va très loin. Je trouve.
Je crois que l'une des forces que cette oppression et ce mécanisme commercial ont capté et ont dévoyé, c'est tout simplement la peur de la mort. On sait que le nouveau, entre guillemets, tabou des sociétés occidentales, puisque le tabou du sexe a, entre guillemets, sauté, le vrai tabou, oui, je dis bien entre guillemets, hein.
Oui.
Le tabou qui reste extrêmement puissant, c'est celui de la mort. On montre pas la mort, on veut pas y penser. Et le poil, paradoxalement, c'est aussi un marqueur de mort, indirectement. Pourquoi? Parce que comme il est, le poil, il est un marqueur de l'âge. Bébé, t'as pas de poil. Puberté, pof, ça éclate de partout. Vieux, t'as le poil qui devient blanc et qui fout le camp. Donc, ne pas avoir de poils, c'est aussi à ce moment-là revenir vers la jeunesse.
Ça limite les problèmes.
Et puis, c'est une manière de croire échapper à la mort. Je pense que là-dessus, il y a et c'est une dimension également très évidente justement dans ce corps américain artificiel. Les ongles, ça tombe. Donc, les ongles, ça rappelle aux gens. Qu'ils ont
le provisoire,
corps.
Oui, le finissant.
Exactement,
le
corps teinture, était fermé. La teinture des cheveux.
Exactement,
aussi,
hein, la teinture des cheveux.
La musculation qui marmoréise les corps.
Exactement. Tout ça, ce sont des choses qui essayent désespérément et évidemment absurdement de créer un corps machine, un corps inaltérable comme est une machine. Alors c'est d'une naïveté monstrueuse, puisque évidemment d'abord un corps ne sera pas une machine, et que deuxièmement les machines elles aussi sont de toute façon éphémères et meurent aussi. Mais c'est un fantasme apparemment indéracinable dans nos sociétés techniques et industrielles où on croit que les ordinateurs, les écrans, les machines, l'acier poli, l'acier glabre, celui-là ne mourra jamais.
Oui, oui c'est tout à fait ça, et ça. Donc cette peur de la mort, elle se couple forcément avec un dégoût de la nature biologique.
Ah, exactement, c'est totalement lié. C'est totalement lié. Et là-dessus, le goût du bio est aussi porté tout simplement par la peur des poisons. C'est pas nécessairement un goût du vrai bio, effectivement de la
c'est
terre.
C'est le goût du propre.
C'est le goût du propre.
D'une certaine manière, c'est un piège aussi.
Voilà. Parce que l'agriculture, la terre, c'est mettre la main littéralement dans le fumier. C'est pas nécessairement si propre que ça. Et ce bio qu'on voit empaqueté dans les magasins. Enfin, je vous rappelle que par exemple en France, la chaîne Naturalia, si je me souviens bien, c'est Carrefour. Enfin, je sais plus quelle grosse chaîne. Enfin, c'est et les types sont là. honteusement à prétendre être bio. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des emballages partout, du plastique, du papier, du machin. Ça n'a rien à voir avec la nature.
Comme quoi, avec un discours, encore une fois, soi-disant libéral, on est en fait encore dans des tabous très archaïques, mais qui sont en plus masqués. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas identifiables. Donc c'est presque pire. Enfin, moi j'ai l'impression que la profondeur de l'aliénation d'un certain point de vue est de plus en plus grande.
Et c'est parce que précisément elle est profonde, elle est invisible, qu'elle est mieux acceptée. C'est ça le truc, c'est que ce sont maintenant des tabous et des choses qui ne paraissent pas être imposées du dehors. Mais je rappelle justement que tous les gens du marketing, et Dieu sait si les vendeurs de cosmétiques fonctionnent à 90% en marketing, ce sont des gens qui recrutent constamment des ethnologues, des anthropologues,
et des sociologues,
maintenant des neurologues qui travaillent très précisément là-dessus, et qui savent justement qu'il faut taper sur les puissances et les instincts les moins clairs, plus archaïques, les plus sombres, non pas en termes négatifs, mais simplement ceux sur lesquels on jette pas de lumière, parce que comme ça, hops, c'est accepté immédiatement.
Ouais, oui.
C'est vraiment la grande puissance de l'idéologie libérale qui nous domine, c'est de travailler effectivement l'implicite. Voilà. L'implicite et les doubles standards, c'est-à-dire un discours de tolérance, de liberté, d'individualisme, où effectivement, comme disait Zoé tout à l'heure, chacun fait ce qui lui plaît, moi je m'épile, c'est pour moi, etc., etc.
C'est ça.
Et en même temps, un comportement ultra conformiste, des normes sociales qui sont appliquées sans pitié. Donc, le discours s'oppose complètement au comportement réel dans la société.
Tout à fait. Donc, le mensonge est de plus en plus prenant et non identifiable. Donc,
Excusez-moi, je voudrais essayer. Il y a quelque chose qui me revient de ce mémoire d'ethnologie. Là, dont il faudrait...
De Juliette Sacoyon, elle
voilà,
s'appelle.
Voilà, merci, exactement. Et qui disait aussi ceci, c'est qu'elle se rendait compte, c'est une femme qui a fait une analyse ethnologique d'un salon d'épilation. Alors, ça a été pas très facile parce que les gens voulaient pas parler. Les femmes déjà avaient du mal à en parler, mais alors les hommes qui s'y rendaient, c'était encore pire. Mais en tout cas, du discours des femmes, elle a aussi tiré une conclusion qui m'a à la fois amusé et attristé. C'est que l'épilation commence maintenant à servir aussi de rite de passage. C'est-à-dire que, de même que les hommes, il y a encore en France 30 ans, un grand rite de passage, c'était le service militaire. D'ailleurs, je rappelle qu'évidemment, on appelait les soldats de la guerre de 14 les...
Poilu.
Merci beaucoup.
Les légionnaires, ils avaient toujours le crâne rasé.
Oui, mais ils avaient la barbe.
Pas tous.
Les sapeurs.
Les poilus, c'est parce qu'ils sont restés longtemps dans les tranchées, c'est ça.
Tout à fait.
Donc c'est pas tout à fait pareil.
Et donc la première épilation est souvent vécue apparemment
comme
un rite de passage. Et il y a même des transmissions. C'est-à-dire la mère apprend à la fille à s'épiler, et c'est vu par la fille comme une entrée dans le monde des adultes.
Ce qui est un paradoxe absolu, encore une fois, c'est qu'en...
C'est un soulagement actuellement. Enfin, moi qui suis née juste avant l'an 2000, j'ai attendu d'avoir l'âge de m'épiler, avec impatience. Parce que j'avais déjà honte de mon corps naturel parce que la société véhiculait déjà donc des tas de clichés, des images de femmes voilà très stéréotypées. Donc je me rappelle bien avoir vraiment attendu ce rite de passage. Et j'ai changé depuis, mais en tout cas c'est fou de voir à quel point on est conditionné, mais c'est très négatif comme appréhension de son propre corps.
Je reviens un petit peu sur ce qui a été dit en début d'émission, quand notre ami Nestor rappelait que dans l'Antiquité, les esclaves étaient rasés. On rasait les cheveux des esclaves pour pouvoir les reconnaître. Et alors moi, j'ai une vision un peu différente de la psychanalyse de Jocelyn ou l'ethnologie. C'est un peu humaniste, moi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête des mecs et des nanas qui se font des têtes d'esclaves pour être à la mode, si ce n'est que ils vivent dans une société où on veut en faire des esclaves. De la même façon, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces nanas et de ces mecs qui se torturent à coups de piercing et qui hurleraient si on osait porter la main sur elles ou sur eux? Alors là, c'est vraiment le nec plus ultra du dégoût de soi-même et surtout de la servilité offerte aux puissants et au pouvoir.
Je crois qu'il y a malheureusement une justification qui est, je crois, très présente consciemment chez ces gens-là. Alors, est-ce que c'est la justification finale? Ça se discute et il faudrait le leur demander à eux et à elles. Mais je crois que ce soit le rasage et surtout les piercings et les tatouages, c'est un rite de passage. C'est une manière de dire, voilà, moi aussi je suis un héros. Avant, à nouveau, le mâle de base français, il allait au service militaire, pof, il avait son brevet de héros. La femme avait son premier enfant, pof, elle avait son brevet d'héroïne. Maintenant, ces deux épreuves physiques, ces deux tests de bravoure et de maturité, soit n'existent plus dans le cas du service militaire, soit dans le cas de la maternité, comportent moins cet aspect-là. Le tatouage est censé être quelque chose qui est douloureux. Donc avoir un tatouage, c'est montrer qu'on sait résister à la douleur. Et je pense que la vogue du tatouage, elle fait partie de cette vogue du corps artificiel, du corps fabriqué, du corps machine, du corps invulnérable. D'ailleurs, un grand nombre de tatouages, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le tatouage du robot. Et en même temps, ça sert à dire, voilà, moi je suis un dur, et d'ailleurs, ça sert souvent à dire aussi, moi je suis une dure. Il y a ces petits tatouages élégants, mais il y a également beaucoup de tatouages portés par des femmes qui sont pas la petite colombe ou les petites arabesques en dessous de la colonne vertébrale, mais qui sont des tatouages entre guillemets masculins, brutaux, pour montrer qu'ils ou elles sont des gens forts. Et évidemment, le paradoxe là-dedans, mais c'est le vieux paradoxe de toutes les armées, c'est que cette manière imbécile de se croire héroïque, c'est en réalité la meilleure manière de jouer avec l'oppression. Mais souvenons-nous, les armées, c'est ça, c'est l'obsession à la fois de l'obéissance et du commandement. Tous les gens qui veulent commander commencent par prétendre que, voyez, moi je sais obéir.
Oui.
Voilà, il m'a cassé le moral pour au moins 2 heures, là.
Moi, j'aimerais qu'on en revienne à l'expérience de Zoé. Tu nous as raconté que quand tu étais adolescente... Ah bon? Non, mais ça va. Bon, on poursuivra après. Quand tu étais adolescente, tu attendais avec impatience d'être en âge de t'épiler, parce que tu avais déjà une image négative.
Oui, tout à fait. Oui, mais je dois dire que j'ai été particulièrement... réceptive à toutes les images que je voyais autour de moi. Donc, je suis à peu près passée par toutes les phases de l'obéissance. Le maquillage, le lissage des cheveux, l'épilation, la mode vestimentaire. Bon. Et je suis à la fois contente d'être passée par là, parce que je me sens maintenant mieux capable de détruire le moule dans lequel j'ai pu faire un bout de chemin. Donc oui, ce qui est très très effrayant, c'est vraiment de voir à quel point les images qu'on nous balance à la longueur de journée peuvent conditionner notre rapport le rapport qu'on a à notre corps et peut faire qu'on se déteste tout simplement parce qu'on n'est pas on ne répond pas à l'idéal de beauté féminine, on ne répond pas au canon qu'on veut bien nous montrer. Et je dirais même que ça va plus loin, parce que le besoin d'être beau, il y a plein d'arguments qui s'y mêlent. Je prendrai un exemple, c'est vous regardez les pharmacies, vous avez l'impression que c'est un institut cosmétique avec des photos de femmes bon pas du tout naturelles. Et vous avez marqué, la nature c'est ça, ma couleur elle est très naturelle. Bon, vous avez des véritables femmes transformées. Et donc c'est pour ça qu'on intègre à tel point cette norme en fait. Et en effet, moi je suis passée par cette phase-là de comment dire, de
formatage,
de compromis pour être accepté aussi des autres, puisque c'est pas qu'un rite de passage, c'est aussi une manière d'être accepté du groupe. Et je pense que si j'avais eu ce militantisme féministe dans les 14-15 ans, j'aurais tout simplement été mise en quarantaine. Ce qui n'est pas non plus souhaitable dans une période où on se construit. Donc ça, c'est très délicat. Je pense qu'il y a un moment où on peut tout simplement pas se révolter. On peut pas être soi. Il faut être quelqu'un d'autre. Il faut être une image. Il faut être un corps modifié pour être accepté par les autres. Et ça va très loin. Et c'est moi, je trouve ça dramatique.
Je voudrais rebondir juste sur un mot qu'elle a dit, parce que là, ça revient à une expérience personnelle pour moi. Elle a parlé du lissage des cheveux. Bon. Moi, je suis métisse, ça se voit pas maintenant, mais j'ai le cheveu extrêmement bouclé aussi. Et je me souviendrai toujours du jour où mon père, qui est blanc, m'a emmené chez un coiffeur, et il a donné une instruction au coiffeur que j'avais pas comprise, et quand je suis sorti, j'avais les cheveux lisses. J'ai évidemment été furieux, je me suis précipité sur le premier robinet, et je me suis remis mes cheveux très bouclés. Et là-dessus, c'est intéressant, parce que le lissage des cheveux, par exemple. Bon, premièrement, évidemment, on est dans une société occidentale blanche. Donc, le lissage des cheveux pour les jeunes arabes, les jeunes métisses, les jeunes noirs, c'est se rapprocher de l'idéal esthétique du blanc. Et tu parles des pharmacies, c'est curieux, hein. Il n'y a pas beaucoup de noirs ou d'arabes comme modèle pour ce genre de choses. Mais je crois que là aussi, il y a un lien direct avec le poil. Le poil pubien.
Il est frisé.
Il est frisé.
Mais oui.
Le cheveu crépu.
Ça défrise, ça.
Le cheveu crépu ressemble. Est vu fatalement.
Oui, oui.
Un poil de cul, un poil de cul. Et là-dessus, c'est quelque chose également qui n'est jamais dit, sauf dans des blagues et des gaudrioles grasses. Mais sans ça, c'est quand même quelque chose qui est là de l'ordre de l'implicite, mais qui est quand même perçu par à peu près tout le monde. Et une grande partie du racisme anti-noir, c'est que cette structure du cheveu africain est vue comme une preuve de plus que le nègre, et c'est l'animal quasiment complet, et que moins on est brun, plus on s'éloigne de l'animal et plus on arrive à l'humanité. En conséquence de quoi, plus le cheveu ou le poil est lisse et raide, plus on s'éloigne de l'humanité, plus il est sombre et crépu, plus on revient
quand
il existe en plus, oui. Plus on revient vers l'animalité.
Tout à fait. On va faire notre deuxième pause musicale, Anne.
Ok. Je voudrais vous parler de lui, vous parler d'un être meurtri, dont on se moque, dont on rit. C'est facile, il est si petit. Il vivait là, tout près de nous. On le trouvait un peu partout, de la mer du Nord au Pérou, de Bamako à Malibu. Pendant des siècles, tout allait bien, tout le monde en prenait grand soin. On le trouvait mignon tout plein, et puis tout d'un coup, tout soudain, une conspiration infernale a décidé qu'il était sale. Vous savez bien de qui je parle, mais oui, c'est de lui. C'est du poil. Le poil est un être vivant. Il ne demande rien, il veut pousser tout simplement. Le poil est un être vivant. Il porte dans son cœur toutes les couleurs de ses parents. Le poil est un être vivant. D'où vient-il, où va-t-il le poil? On ne le sait jamais vraiment. Le poil est un être vivant. Regardez-le de près, vous verrez qu'il est innocent. Quelques rebelles ont résisté, ils ont tenté de se dresser contre la glabre autorité. Ils ont tous été épilés. Les plus durs se sont cachés là, croyant échapper au trépas, entre les cuisses et sous les bras. Et ont-ils survécu? Un. C'est chez la femme, comme par hasard, qu'ils subissent le sort le plus noir. Ils sont arrachés par milliards, sauf chez Binabar, chez Crevoir. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. traqués jusque dans les trous de nez. Même leur nom n'est plus cité que pour de tristes colibets. Poil au nombril, poil au néné. Le poil est un être vivant. Il ne demande rien, il veut pousser tout simplement. Le poil est un être vivant. Il porte dans son cœur toutes les couleurs de nos parents. Le poil est un être vivant. D'où vient-il, où va-t-il le poil? On ne le sait jamais vraiment. Le poil est un être vivant. Regardez-le de près, vous verrez qu'il est innocent. J'ai un rêve, qu'un jour on puisse tous, sans avoir peur de passer pour des blaireaux, qu'on puisse tous crier à poil, à poil, à poil. Ouais. Les seuls tolérés, ce sont ceux qui se font appeler cheveux. Là par contre on les veut nombreux, on les abrite même quand il pleut. Moi je le crie, je le soutiens. Mais oui, le poil est féminin, c'est de la fourrure du satin. À part que ça ne coûte rien. Il nous entoure, il nous protège des agressions, des sortilèges, qui du soleil, qui de la neige, qui du blizzard, du feu, que sais-je. Le poil est fait pour la caresse, pour qu'on y perde avec ivresse ses griffes dans sa jungle épaisse. Le poil mérite qu'on le connaisse. Le poil est un être vivant. Il ne demande rien, il veut pousser tout simplement. Le poil est un être vivant. Il porte dans son cœur toutes les couleurs de nos parents. Le poil est un être vivant. D'où vient-il, où va-t-il le poil? On ne le sait jamais vraiment. Le poil est un être vivant. Quand il n'y en aura plus, c'est le cœur qu'on trouvera bruyant.
Radio Libertaire 89.4 dans l'émission Pas de quartier. Vous pouvez nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales en composant le 01 43 71 89 40. À vous.
Et alors, c'était quoi cette chanson?
Alors, c'était, si je me trompe, Isabelle Ferron, Le Poil.
Ah ben voilà, nous sommes donc en plein dedans. Alors, Zoé, toi qui donc a arrêté de t'épiler, donc consciente du fait que tu subissais une injonction, est-ce que tu peux nous raconter ce que ça a suscité, comment tu l'as vécu, ce que ça a suscité dans le regard des autres? Voilà.
D'accord. Donc, il se trouve que j'ai choisi un moment assez particulier pour commencer cette expérience. J'étais particulièrement bien entourée et bien en confiance. J'avais confiance en moi et j'étais plutôt appréciée de tout le monde, ce qui a facilité cette expérience-là. Et j'ai choisi de la prolonger par provocation, en voyant que ça allait pas de soi du tout. Les amis qui ont découvert ça, m'en ont parlé gentiment, ils s'interrogeaient, donc ça c'était assez agréable d'en parler avec eux. Mais après, je me suis trouvée face à pas mal de réactions assez choquées, et puis il y avait surtout le problème du regard anonyme des gens, du regard de monsieur tout le monde, oui voilà.
Il était comment ce regard? Tu peux
pas,
le
ben, ce que, ouais, ça passe ouais. Pas du tout inaperçu, et on voit tout de suite que à la différence des hommes, des jambes de femmes avec des poils, centre l'attention tout de suite.
Et qu'est-ce que tu lis dans le regard? Le dégoût, la colère?
Alors, il n'y a pas que le dégoût, il y a d'abord donc la surprise. Parce que je pense que dans une ville, j'étais pas mal à Lyon, Et bon, là maintenant, Paris, bon, sur 1000 femmes, je pense parfois dans des groupes de 1000 femmes être la seule à faire ça. Et bon, ça se remarque très vite. Hein. Bon, après, moi, je fais mes petites observations, mes petites hypothèses sur la question. Et donc, le fait que je sois un cas isolé comme ça, ça suscite tout de suite l'attention. Une surprise qu'on lit pas toujours agréable dans le regard des gens, puisque c'est une forme de déviance, c'est une différence en fait. Donc je lis une forme d'intolérance dans le regard des gens qu'ils n'explicitent pas forcément, mais qui se lit très bien.
Les gens, que ce soit des femmes ou des hommes.
Et plus particulièrement des femmes en fait, puisque pour les hommes, l'épilation n'est pas un problème. Donc, ce que je veux dire, c'est que bon, de plus en plus maintenant, il y a cette injonction capitaliste et esthétique qui se tourne vers cette bonne cible qui est le public masculin. Mais à la base, moi, si je vais à la plage ou dans la rue, c'est pas les hommes qui regardent mes jambes, c'est plutôt les femmes, puisque le fait que moi je me plie pas à cette norme, ce sont les femmes qui s'en trouvent ou discréditées ou qui prennent ça pour une supériorité de leur part, puisque peuvent me taxer de négligence, bon, et alors qu'elles prennent soin d'elles. Et ce que j'ai souvent comme réaction quand je dis à des amis que voilà, je fais ça pour échapper à la dictature de l'épilation, elles me disent: ah, mais dictature, non, moi je fais ça, je m'épile, d'accord, je comprends ton point de vue, Zoé, mais moi je fais ça par choix esthétique, parce que je considère que c'est plus beau. Ce qui est assez discutable, puisque en fait, ces filles-là ou ces jeunes femmes-là n'ont jamais essayé en tant qu'adultes de laisser leur pilosité naturelle au grand jour, en quelque sorte. Donc il n'y a pas de point de comparaison possible, puisque comme moi, j'imagine, comme je suis dans la française moyenne ou l'occidentale moyenne, à partir de 12 ans, dans l'époque où j'ai vécu, il fallait s'épiler. Donc ces femmes-là n'ont pas fait l'expérience d'un corps adulte avec une pilosité naturelle. Et bon, de plus, c'est particulièrement rassurant de se dire qu'on a le choix et qu'en même temps, ce qu'on a choisi, c'est la norme la plus acceptée. Bon, c'est très commode.
Dans le rapport, là, dans le mémoire d'ethnologie, justement, l'ethnologue parlait beaucoup de cette intériorisation de la norme et de ce prétexte esthétique qui, en fait, cachait une idée que le poil, on en revient à l'animalité, le poil, c'est sale. Et que s'épiler, c'est une mesure d'hygiène, qu'elle camoufle en choix esthétique, mais qui est vue par elle comme...
C'est plus camouflé maintenant. C'est assumé comme hygiène.
Vous avez un prétexte d'hygiène, ça va avec aussi la transpiration des aisselles, par exemple. On a toute des généralités sur le poil qui provoquerait plus de transpiration, le poil sale, qui est complètement hallucinante.
Il y a même dans ce même mémoire de cet ethnologue qui s'appelle Juliette Sacoyan, il y a même quelque chose de encore plus pernicieux que l'hygiène dans les propos qu'elle a recueillis. C'est-à-dire, les femmes vont dire, évidemment, c'est l'hygiène machin, mais c'est aussi une politesse. Oui, par rapport aux autres.
Oui.
Ce que je trouve...
Faire attention à soi.
C'est faire attention à soi. C'est quand même la moindre des choses.
Voilà. Exactement.
Ce que je trouve encore pire, et c'est vrai ce que dit Zoé, c'est vrai que ça n'est absolument pas un choix. Moi, je veux dire, je suis pas une maniaque de l'épilation, mais je suis soumise à cette norme, et j'en suis consciente. Et moi, je crois... pas mal de filles qui sont un peu entre les deux, qui s'épilent, mais que ça emmerde. Par exemple, quand il fait froid, quand elles ne montrent ni leurs jambes, etc., ne s'épilent pas, mais qui vont dire, par exemple, je dois aller chez le médecin, il faut que je m'épile. Ou alors...
Il y a Anne dans la cabine, bon, elle montre ses jambes.
Voilà. Ou alors, mon Dieu, si j'étais renversée par une voiture, si les pompiers me ramassent, et si... j'ai des poils.
Oui,
Donc il y a.
C'est une crainte.
C'est une crainte et c'est à la limite d'une honte.
Ah, c'est une honte.
C'est à la limite d'une honte. Donc c'est quelque chose de très profond. Et je confirme, moi qui en plus travaille dans la presse féminine, comme vous vous souvenez peut-être, que c'est une injonction, mais plus qu'absolue. Je veux dire, on ne peut même pas prononcer le mot poil.
Je crois que ça en est pas loin, en fait, maintenant, où le poil, là-dessus, c'était aussi une idée de ce mémoire, le poil, c'est un excrément. C'est-à-dire, pour parler franchement, souvent, ces femmes-là osent aussi peu exhiber leur poil que si elles exhibaient leurs excréments, leurs papiers de toilette, leurs serviettes hygiéniques. Pour elles, c'est la même chose. Et c'est là, à nouveau, où on en revient à cette norme tellement ancienne du corps féminin comme sac à merde, comme sac à salive.
Tout à fait, comme disaient les pères de l'Église, voilà. Très concrètement, et la femme est un sac à merde.
Voilà, et le poil est donc vu comme l'un des excréments. Et donc, par conséquent, on peut pas le montrer. Et c'est là où cette injonction est bâtie et puis est captée par le système marchand.
Oui. Et on se rend compte qu'on est dans les mêmes représentations que celles d'Aristote ou des pères de l'Église, donc de la femme comme être quasi monstrueux et comme sac à merde.
Et relayée par le corps médical par la suite.
Oui, tout à fait. Comme quoi... On a du pain sur la planche.
Mais François. Alors, je me tourne vers le docteur Jocelyn et vers Zoé. Alors, que faire? Qu'est-ce que vous avez entrepris de faire pour... Est-ce que c'est une lutte? Est-ce que vous allez développer des arguments sociologiques, psychanalytiques? Ou est-ce que vous avez d'autres modes de... une fois que la condamnation est faite sur un mode savant, est-ce que vous avez des actions ou des modes de lutte?
Alors, ce qu'on fait s'adresse notamment justement aux femmes qui sont isolées, parce que quand on est isolé et qu'on n'a plus envie de s'épiler, c'est extrêmement dur à assumer. Donc, notre site internet, que je peux peut-être donner là, donc,
bien sûr,
www.ecologielibidinale.org, tout attaché.
Pas d'accent sur écologie.
Pas d'accent, tout attaché. Notre site, le forum qui est associé, ça permet à ces gens qui sont isolés de se rendre compte qu'en fait, elles ne sont pas seules, qu'il y a d'autres femmes dans leur cas. On a toute une liste de témoignages. Les femmes échangent, les femmes et les hommes échangent sur notre forum, se soutiennent. Et puis, il y a aussi donc la page argumentaire qui donne tous ces arguments donc de toutes les différentes points de vue et disciplines. Pour permettre à la femme qui veut résister de s'assumer et de faire face au regard des autres.
Alors, un truc qu'on pourrait vous objecter, c'est que cette résistance à l'épilation, on pourrait vous dire, c'est quand même un combat accessoire. C'est quand même vu par rapport à l'égalité salariale, au truc, au machin. C'est vraiment, voilà. Qu'est-ce que... Vous répondez à ça.
Ça, c'est très important d'en parler parce que j'ai oublié de parler d'une autre réaction tout à l'heure quand je me confronte à d'autres points de vue féminins et même féministes qui ne sont pas forcément qui ne font pas forcément écho à mes idées féministes à moi. Je tombe souvent sur ce problème de la vacuité de ce problème et son
anecdotique, quoi.
Son caractère anecdotique et pas très important, en fait, en regard d'autres luttes, l'inégalité des salaires. Bon, moi, je pense que c'est une lutte fondamentale et donc c'est un féminisme qui est beaucoup plus important que militer pour la parité dans les salaires, par exemple, puisque je considère que quand on enferme quelqu'un ou quand on contraint quelqu'un dans son corps, on le contraint dans sa tête et dans sa liberté, à tout point de vue. Donc, si on donne un salaire égal pour un travail égal à un homme et une femme, mais que la femme doit se rendre sur son lieu de travail en talons aiguilles, maquillée, fardée, en mini-jupe épilée, ça ne règle pas le problème de l'égalité homme-femme. Donc, ce problème-là de la résistance à l'épilation, il est fondamental dans le sens où une fois que nous les femmes, on se sera affranchis de cette soumission physique, on pourra en effet prétendre à une égalité sur le plan de la reconnaissance de nos compétences intellectuelles et des compétences autres que notre potentiel de séduction, ce qui est quand même très très infantilisant, infériorisant, bon. c'est un outil de la domination masculine, de nous faire croire qu'il faut être belle à tout prix, qu'il faut séduire, être toujours dans une perspective de séduction. Donc pour moi, c'est ça la première des choses à régler dans les inégalités hommes-femmes. C'est avoir les mêmes droits que les hommes sur le plan physique, voilà, sur le plan matériel. Après, quand on pourra être libre d'être seins nus à la plage ou de sortir pas maquillée, de n'être pas fardée ni ornée de bijoux et avoir des shorts et des poils aux jambes, là, je pense que ce sera une vraie avancée.
Alors,
est-ce que je pourrais juste donner deux petits arguments rapides en plus ? L'épilation, ça coûte une fortune. C'est très très cher.
Oui, c'est une perte de temps, d'énergie.
C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'argent. Et puis ça fait mal.
Oui.
Ça fait mal. Il n'y a pas de technique d'épilation indolore. Et par conséquent, ouais, mais c'est quand même. Il y a Anne qui me regarde en me disant.
On finit par s'habituer.
On finit par s'habituer. Oui, mais... qui c'est qui parlait des masochismes?
Non, mais il paraît que ça fait mal quand ça repousse.
Voilà. Non,
c'est pas
non,
quand
non,
on le.
Et ça, je pense quand même qu'une auto-torture infligée quasiment toute la vie, ça me semble pas du tout non important, superficiel. De la combattre.
On a pu voir tout au long de l'émission à quel point ça n'est pas anecdotique. Mais ce qu'on peut aussi vous opposer, c'est quand on voit que maintenant les jeunes hommes s'épilent de plus en plus. Moi, j'observe et je suis frappée de voir à quel point les jeunes hommes maintenant s'épilent. Des femmes pourraient vous dire, voilà un résultat du féminisme, c'est que maintenant les garçons se font chier autant que nous. Oui, vraiment. Maintenant,
le nivellement par le bas.
Exactement. Voilà, c'est un faux féminisme. C'est l'égalité dans la soumission et dans la bêtise. En fait.
Mais on se fait chier. Il n'y a pas de raison qu'ils ne s'emmerdent pas. Et d'ailleurs, ils le font.
Mais il n'y a pas que les hommes, que les femmes qui sont soumises. Les hommes aussi sont soumis à ces normes. Leur regard sur les femmes est soumis à ces normes.
Oui.
Et maintenant, cette norme s'attaque à eux puisqu'ils sont effectivement une cible marketing très, très juteuse. Mais là, on est. Alors, et justement, l'argument de l'hygiène dont on parlait tout à l'heure, il est venu parce qu'on va s'adresser aux hommes. Et les hommes, on ne peut pas leur dire c'est une question esthétique. Mm-hmm. On leur dit c'est une question d'hygiène. Et au fond, là, effectivement, même si on avait des techniques indolores, ça ne changerait rien. Au fond, on est dans quelque chose où on impose une soumission aux gens, donc aux femmes et aux hommes, et ça, c'est l'intérêt de la classe dominante, d'avoir des gens soumis et aliénés.
Oui. Et j'ai lu aussi en me documentant qu'il y a quand même de plus en plus de mouvements anti-épilation, il y a de plus en plus de mouvements de résistance à l'épilation, en tout cas dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en Angleterre. Je fais une toute petite parenthèse. On remarque quand même que les Scandinaves et les Allemands ont tendance à être moins obsédés par leur poil.
L'un des trucs pour lesquels les Scandinaves et les Allemandes sont effectivement s'épilent moins, c'est que très souvent le poil blond se voit moins.
Oui, bah oui.
Mais il y a aussi une question de culture, hein,
parce que dans
les cultures scandinaves et allemandes, il y a beaucoup moins de répression sexuelle que dans les cultures méditerranéennes.
Absolument.
Oui. Donc c'est quand même effectivement.
Il y a une autonomie de l'initiative sexuelle dans ces cultures allemandes et scandinaves qui font que là-dessus c'est vu comme fort heureusement part de la liberté féminine. Et c'est un peu. J'ai beaucoup d'amis scandinaves et allemands et ils et elles sont ahuris par le degré d'épilation qu'il y a par exemple en France.
Oui, en France, aux États-Unis, enfin, dans tous les pays autres que scandinaves. Je pense que c'est une forme de militantisme qui progresse, je le crois, ou je me trompe. Est-ce que ce point de vue sur le corps, cette façon de refuser des diktats, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui a un écho grandissant ou, enfin,
disons que l'un des résultats que nous, au Miel, on a obtenu, c'est de refaire en sorte que la question se pose. C'est-à-dire, quand on a commencé, la question de l'épilation n'existait pas. L'épilation allait de soi, et tout ce qu'on pouvait trouver comme article de presse, par exemple, c'était un comparatif entre telle technique et telle technique. Voilà. Et on a réussi, modestement, la petite échelle, à faire que paraissent des articles qui posent la question, pourquoi s'épile-t-on, faut-il s'épiler, etc.
Il y a des articles, maintenant, vous avez l'impression que les médias traitent de la question?
Il y en a eu toute une série au long de, enfin, depuis qu'on a commencé.
Oui, le miel, oui, mais voilà. En général...
Non. Moi, j'ai essayé de faire un papier là-dessus dans le magazine où je travaille, ça a été un niette catégorique.
Non, mais c'est très peu répandu et c'est pas vraiment à l'ordre du jour, je crois. Je veux pas être pessimiste, mais quand je vais sur des... J'ai eu l'occasion d'aller sur des sites de santé, bon, Doctissimo, voilà... Et c'est fou de voir que quand ils présentent les techniques d'épilation, par exemple, ils commencent par une petite phrase introductive. Normalement, l'épilation devrait être un choix, devrait pouvoir être choisi par la femme, etc. Mais c'est du conditionnel qui est employé. Donc, c'est pas que c'est un choix. Ça devrait. Donc même ces sites-là...
Le fait d'utiliser le conditionnel, c'est déjà qu'il y a une perception la question peut se poser. Donc, on a déjà progressé.
Oui, je le voyais pas comme ça, mais c'est...
Et il y a aussi, il y a des discussions de forum, là, il y en a pas mal, y compris sur Doctissimo, où il y a parfois un sujet, moi, je m'épile pas, ou est-ce que vraiment, etc. Donc la question se pose, elle se pose.
Ouais. Quel était l'argument qu'on a utilisé pour refuser ton article?
C'est qu'on pouvait pas, que les poils, c'est dégueulasse.
Voilà.
Et qu'il n'était pas possible, c'était un tabou absolu. Moi, j'avais proposé une semaine sans m'épiler. J'allais pas très loin parce que,
mais ça n'a pas le temps de repousser.
Voilà. Non, et ça a été un fiasco.
Oui, la réponse est celle des parents à leurs ados. C'est comme ça parce que c'est comme ça parce que c'est pas autrement. Bon, déjà, on mesure l'ampleur de l'argumentaire. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que les journaux de mode féminin n'existent que parce qu'ils sont abreuvés de pubs de cosmétiques, notamment.
Bah oui.
Tu étais en train de cracher sur le mécène. Je comprends qu'ils n'étaient pas d'accord.
Oui, voilà.
Mais il y a, je voulais dire quand même que...
3 minutes.
Maintenant, il y a quand même l'Internet... C'est-à-dire des moyens d'expression alternatifs pour les gens. Et donc, il y a des jeunes femmes, par exemple, qui tiennent des blogs.
J'en ai trouvé beaucoup. J'ai trouvé des sites de photos de filles qui diffusent des photos d'elles non épilées. J'ai trouvé un truc de rencontre, ça m'a fait rigoler, qui s'appelle la France Velue. Et ça, j'ai trouvé ça quand même...
Ouais, mais...
assez drôle. Enfin, moi, j'ai l'impression... Alors, c'est peut-être parce que je m'y suis intéressée,
tu trouves.
Oui,
mais le problème d'Internet, c'est que
c'est
un vecteur autant de conneries que de réflexion.
Donc, tu cherches ce que tu... Ouais,
voilà,
tu trouves
aussi
ce que tu cherches.
Des tas de lieux communs et même des idées complètement irrationnelles le poil sur le pubis, ça gêne la pénétration. Bon, des trucs comme ça, il faut absolument que tout le monde s'épile parce que ça me gêne dans mon rapport sexuel. Il y a des choses comme ça.
Ouais.
Donc, une intolérance avec des tas de prétextes de divers horizons qui... Bon, il y a de tout sur Internet, en gros.
Oui. Et François, il nous reste...
2 minutes.
2 minutes. Je sais pas comment on pourrait conclure. Moi, j'ai l'impression... Peut-être conclure en disant que j'ai l'impression qu'il y a des gens, comme les gens de miel, des filles comme toi, qui ont de plus en plus conscience des oppressions non dites qu'elles subissent. Et j'ai l'impression que d'un autre côté, les oppressions sont de plus en plus fortes.
Oui.
Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mouvement
contradictoire
qui se renforce dans les deux sens. Donc on va avoir peut-être un peu plus de filles poilu et plus de filles épilées au laser, vraiment dont le corps sera définitivement altéré et qui n'auront même plus l'idée peut-être un jour que le poil a existé.
Ben voilà une conclusion qu'elle est optimiste.
Voilà.
Nous t'en remercions, Elisabeth.
Mais c'était un plaisir.
Zoé, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as 1 minute 30.
Je pense que l'important, c'est d'en parler. Donc pour ça, on peut être optimiste tout de même quant à l'existence d'Internet, de ces forums, de ces discussions. Voilà, les gens qui sont soumis à cette norme, on ne peut pas vraiment leur en vouloir à eux, puisque c'est le système qui les aliène. Mais dès qu'ils se posent la question, Il y a quelque chose d'assez positif qui s'observe, c'est que quand tu commences à te poser la question et à remettre en question ce qui t'oppresse et ce que tu fais,
le poil,
il en découle des tas d'autres questions et voilà, je pense qu'il y a matière à réfléchir sur ça.
Le poil va peut-être devenir du poil à gratter.
Ah oui, ah si, je voulais lire un poème de Théophile Gautier, mais on n'a plus le temps.
Il n'a plus le temps.
Dommage.
Très long, mais il est très beau.
Alors, très beau.
Juste pour que vous sachiez ce que c'est.
Alors attendez.
Il s'appelle Musée secret. Il est de Théophile Gautier. Et c'est un long poème qui regrette que justement les sculpteurs de l'époque de Théophile Gautier pensent imiter les sculpteurs grecs en refusant de marquer les pubis des statues avec une représentation du poil pubien. Et il y a en particulier un petit vers magnifique pour décrire ce poil pubien, le gazon où s'assied Eros. C'est
voilà.
Pas mimi ça.
Ben, c'était pas de quartier l'émission du groupe Louise Michel, hein, Elisabeth? Et qu'est-ce qu'il y aura dans les semaines à venir? C'est trop tôt pour le dire. Ah, on ne dit pas encore. Ça sera la surprise. Sinon, vous aurez de bonnes revues.
Voilà.
Et on dit merci à
Jocelyn. Merci Jocelyn, Zoé et Nestor.
Et Anne,
bien sûr.
Vive la nature.
Anne, la technicienne qui ne s'épile pas les jambes.
Un jour, je suis passé mode. Quel supplice. J'ai eu des démêlés de justice. Raser les murs, j'étais clandestin, craqué dans les moindres recoins, coin-coin. Je voulais pas finir comme fourniture, pour perruque ou brosse à chaussure. Par charter, j'ai fui le capitalisme, en Afrique où j'ai eu poilulisme. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rase, ça me barbe, ça me refile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture au rasoir vite. Ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rate, ça me barre, ça me repile. Dans un monde aseptique, je suis politiquement incorrect. Bien trop malade, j'ai dû partir. Hey, on aurait dit un poil à frire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, c'est le principal, dans une communauté au Népal. J'ai fondé mon paradis fiscal sur une baba coulant sandale. À tous les crânes d'œufs, je serai de retour. En 2069, poil aux dents.